Philippe de Pierrepont, bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre nouvelle BD, Le Réveil de Little Nemo, publié par le musée de la bande dessinée de Bruxelles. Donc, 120 ans auparavant, Little Nemo apparaît. Comment se retrouve-t-on embarqué dans une telle aventure? Revisiter une BD aussi emblématique que celle de Little Nemo, c'est un fameux défi, non?
C'est un fameux défi, oui. Et que je n'aurais jamais entrepris tout seul. C'est Isabelle et Belinda, qui, donc, du musée de la bande dessinée, qui m'ont contacté. Avec ce désir... C'était plus qu'un projet, c'était vraiment un désir très puissant, qui m'a porté d'ailleurs, de publier un premier album de BD. Et déjà, une institution comme le musée de la BD me suis dit, publier une BD, c'est assez rafraîchissant. Et elles étaient très très enthousiastes. Elles m'ont proposé une carte blanche. Avec une restriction, c'est que elle choisissait elle-même les dessinateurs et dessinatrices. Et donc j'aurais proposé de, en discutant avec elle, de partir sur l'idée que Little Nemo se réveillerait après 120 ans d'un sommeil sans rêve ni cauchemar, et se réveillerait dans notre monde à nous. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle s'est très très enthousiaste sur le projet. On en a parlé et
ça remonte à combien de temps, ça, le début d'année?
Un an et demi.
D'interprétation.
Un an et demi, oui. Ça a été très vite, hein. Ouais. Ça a été très très vite. Et au niveau de l'organisation et tout ça, tout s'est déroulé de manière assez fluide et facile. Les défis étaient ailleurs. Les défis étaient plus artistiques, narratifs, parce que s'attaquer à un monument comme Little Nemo, c'est pas un pas qu'on fait comme ça si facilement.
Quelle était la difficulté majeure pour un comme vous?
Bah, la difficulté majeure, je pense, c'est d'abord de se confronter au fait qu'on est très intimidé. Parce que j'ai relu toutes les planches que Winsor McCay avait publiées à The Verve.
Même quelques années de production, quand même.
Oui, oui, oui.
1905,
à 1912, je pense. Mais bon, à la fin, c'était moins. Mais même le gros album classique qui a été publié en français, qui reprend la grosse partie de sa production. Je l'ai relu, et la première chose que j'ai fait, c'est relire ça, et j'étais terriblement intimidé, parce que c'est quand même le gars qui a quasiment inventé la bande dessinée, le langage de la bande dessinée. Bon, et c'est pas le tout premier, mais c'est quand même lui qui a influencé Rupert Hurley, le langage, et qui en a inventé une grammaire graphique incroyable, parce que c'est d'une rigueur et d'une fantaisie liée à un niveau d'exigence dingue. Et allier rigueur et fantaisie à ce niveau-là d'exigence, c'est rarissime, quoi. Et donc, pour moi, c'est le plus grand auteur de BD, hein. Et en plus, il a quasiment, c'est lui qui a le plus influencé l'histoire de la BD, et qui a le plus nourri une histoire de la BD. Donc évidemment, s'attaquer, c'était pas s'attaquer, c'est se frotter à ce bonhomme, hein, c'était quelque chose, quoi. Et bon, non seulement, bon, c'est vrai que je suis scénariste de BD, mais je suis aussi historien de l'art, et ça aide quand même aussi à prendre de la distance, à réfléchir, à analyser. Et donc je me suis donné comme une ligne de conduite de ne pas essayer de copier Little Nemo, enfin le Little Nemo original, de ne pas le singer, d'en faire un, de me l'approprier et de se dire, si l'Itonemo se réveille maintenant, en 2025, chez nous, dans notre monde, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver comme aventure, comme gauchepart, comme rêve, à quelles préoccupations il pourrait se confronter? Parce que quand je dirais, j'ai relu le Little Nemo original, je me suis rendu compte, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu, que c'est pas si enfantin que ça, et léger que ça. Il fait quand même des vrais cauchemars très puissants, quoi. Hein. Et donc j'ai rencontré la plupart du temps par vidéo call les 6 dessinateurs, dessinatrices de Cuba, du Portugal, du Maroc, un de Bruxelles, du Liban et de Taïwan. Et je leur ai proposé, voilà, je leur ai dit, Little Nemo se réveille chez vous, dans votre ville, maintenant, dans votre ville, dans votre lit, dans votre appartement, où vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passerait d'après vous si Little Nemo débarque là dans votre vie, dans vos pieds, et à quelle préoccupation, soit intime, soit géopolitique, comme vous voulez, tout est possible, de toute manière tout est lié. Ce petit bonhomme, cet enfant devrait se confronter.
En fait, ce sont les illustrateurs qui vous ont suggéré l'histoire que vous avez finalement concoctée.
Oui, ça. Oui, en fait, c'est une co-scénarisation. Si vous voulez, je suis un scénariste. Je suis, disons, le maître d'œuvre de la narration du bouquin. Le maître d'œuvre de l'idée générale et de la cohérence générale, mais avec chacun, la plupart du temps par vidéo call, on discutait, on rediscutait, on se revoyait, et on faisait une sorte de travail d'abord de connaissance, puisque je les connaissais pas, et eux ne me connaissaient pas non plus. Je connaissais pas leur univers, mais je connaissais pas leur univers ni, bon, géopolitique, parce que eux, ils le vivent, moi, je le vois, je le lis dans les journaux, mais eux le vivent, leur contexte. Eux, ils vivent leur vie. Je connaissais pas non plus très bien leur univers graphique. Donc, il fallait qu'on s'apprivoise, qu'on se comprenne, qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et donc, je leur disais, voilà, je leur posais des questions. Et eux, ils disaient, d'après moi, ils pourraient être confrontés à ça, ou à ça, ou à ça. Et petit à petit, on trouvait un chemin commun, et on tombait en général très facilement sur la décision de se dire, à Cuba par exemple, ce qui frappe le plus le dessinateur cubain Alex, c'était que plus personne ne rêve que les rêves. C'était tout un peuple qui a rêvé pendant des années à l'émancipation, à la révolution, à la libération du colonialisme. Et finalement, aujourd'hui, ils ne rêvent plus. Et plus du tout. Et le vrai problème, si Little Nemo arrivait à Cuba, débarquait à Cuba ou vivait à Cuba, c'est que il vivrait dans un pays où plus personne ne rêve. Voilà, c'est tombé comme ça, par exemple.
Outre donc Alex, comme vous l'avez dit, donc Philippa, Kamal, Omema, Bliss, il y a le Belge Ronan Chabra, donc à qui l'on doit les trombines. Finalement, c'est lui qui a peut-être eu une tâche un peu plus périlleuse, puisque il va devoir reprendre tous les héros de la bande dessinée. C'est un gros travail, quand même.
Bon, on est.
Oui. C'était dès le prévu, c'est lui qui l'a proposé, ou c'est vous qui... Tu vas dessiner tout.
Non, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment des discussions, de complicité. C'est vraiment un travail complice, en fait, qu'on a réalisé tous les 7. Et dans cette complicité, ben on discute et on se dit, tiens, voilà, Little Nemo se réveille à Bruxelles. On tombe sur l'idée, je ne sais pas si on peut le dévoiler ou pas.
Non, pas à la fin.
D'accord, ouais. Il se réveille à Bruxelles et il sera accueilli, lors de son réveil, par la plupart des personnages majeurs de la bande dessinée internationale. Il sera fêté pour son vieil âge par tous ces personnages Et Renan a été super excité en se disant « Oh, je vais devoir dessiner tous ces personnages, ça va être complètement dingue ». Et il l'a fait avec une maestra formidable parce que c'est du Renan. C'est le Blueberry de Renan, c'est l'Adèle Blanc-Sec de Renan, c'est le Gros Dégueulasse de Renan, c'est Mister Natural de Renan. Et c'est assez jouissif.
Mon frère dit, j'ai rêvé le plus beau des rêves et je n'étais pas seul. J'aurais cru entendre John Lennon et Emmanuel, non?
Ah oui, c'est, bah oui, évidemment. Eh ben, j'y ai pas pensé. Quand j'ai écrit cette phrase, j'y ai pas pensé du tout. Ah oui. Bien vu. Bien vu, ouais, c'est bon, c'est pas mal comme,
Ah oui, comme référence.
Comme référence.
Et vous êtes un rêveur?
Quand même, oui, beaucoup, oui. Un rêveur, un fantasmeur,
un joueur de cartes, un flambeur,
aussi. Non, pas du tout, non. Non.
Bon, vie, la vie est un jeu de cartes.
La vie est un jeu de cartes, oui. Mais c'est pas moi qui, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase-là. Oui, c'est un ami burundais. Mais non, je suis pas du tout flambeur et pas du tout joueur. Mais par contre, oui, j'ai un monde intérieur très très puissant qui me permet parfois de survivre aux noirceurs de ce monde.
Dans la Terre promise, on y brûle les livres comme Fahrenheit 451 de Bradbury ou Truffaut et les autres d'affaires de 1933. La culture est un enjeu, non?
Bah, la culture est un enjeu,
et un noyau en danger, je veux dire.
Est en danger. La culture est en danger et c'est un enjeu fondamental. Alors bon, la culture est en danger, oui et non, mais ce qui se passe maintenant, bon, on va pas parfaire le monde, hein, mais ce qui se passe maintenant, c'est une période de bouleversement quand même énorme, et en fait, oui, elle est en danger, mais je reste tout à fait optimiste parce que j'ai le sentiment que nous, les humains, les bipèdes, avec le pouce préhensile et le cerveau hautement développé, j'ai l'impression qu'on aura toujours besoin de création, d'inventer, d'étudier, de réfléchir, de se divertir. Et en ce sens, je reste tout à fait optimiste.
L'intelligence artificielle en tant qu'auteur, ça ne vous perturbe pas trop?
Ça me perturbe dans le sens que ça fait très fort réfléchir. Mais et que ça crée pas mal de questionnements et de préoccupations, mais c'est plus des préoccupations que des angoisses. J'espère que c'est un peu comme Internet qui est né d'une manière tout à fait libre, avec un projet complètement libertaire de...
Politique.
Formidable, hein, et qui a été repris en main par les GAFA d'une manière spectaculaire. Mais qui reste un outil, malgré tout, qui peut être un outil de liberté. Lors de grandes manifestations d'émeutes, de révolutions, Internet sert aux émeutiers aussi. Il ne sert pas seulement qu'aux grands, qu'aux puissants, quoi. Et je me dis que l'IA, finalement, même si elle est contrôlée totalement, bon, encore plus que l'Internet à ses débuts, évidemment, puisque c'est eux qui l'a créé, c'est des puissants qui l'a créé. J'ai l'impression que les êtres humains, les sociétés trouveront toujours une manière divergente de l'utiliser.
Alors, en tant qu'auteur de bande dessinée, où vous nous avez quand même habitué à des récits sombres, de le dire, pour ne pas la citer, donc là, paysage après la bataille qui aborde le thème du deuil et de la reconstruction du maire après la perte de son enfant. Comment est-ce que vous expliquez votre passage au rêve et à l'onirisme? Est-ce que c'est...
D'abord, Je suis pas sûr que mes bouquins précédents soient si sombres. Il y a chaque fois quand même une lumière. C'est plus l'histoire d'une reconstruction, paysage après la bataille, après un deuil, que l'histoire d'un deuil. Oui, le deuil est une reconstruction, voilà. Donc il y a quand même de la lumière dans l'obscurité. Et dans mes autres bouquins, en effet, c'est chaque fois des histoires quand même assez dures ou sombres, mais il y a toujours de la lumière. Et ici, je pense que, je suis sûr que c'est une coïncidence, mais ce projet de bouquin est arrivé quand j'attendais un petit bébé, et ce petit bébé a quand même bien transformé ma vie et ma vision du monde. Elle l'a élargi et l'a illuminé. Voilà, il y a ce petit Little Nemo qui tombe sur la couverture et il tombe sans fin, il tombe tout le temps en fait. Il n'arrête pas de tomber dans le bouquin en effet. Il n'arrête pas de tomber, de se réveiller, de tomber, de se réveiller. C'est marrant de se dire que ce bouquin arrive au moment de la naissance de ma fille, quoi. Ce bouquin est quand même assez sombre. Hein. Ce sont des histoires où le contexte est sombre, en tout cas. Oumaïma au Maroc, par exemple, elle, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui pourrait bien se passer si Little Nemo, si cet enfant arrivait au Maroc, et elle a vécu une bonne partie de sa vie sur dans une ville côtière, d'où partent régulièrement des bateaux de migrants qui risquent de couler, qui risquent beaucoup de couler en Méditerranée et de continuer à faire en sorte que la Méditerranée soit un cimetière de migrants, quoi. Et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux parler de ça? Tu veux pas parler d'autre chose? On a, pendant 4 séances longues, cherché autre chose et finalement, elle a dit, finalement, non, je pense qu'il faut que je parle de ça. Mmh. Ok, d'accord, on va parler de ça. Et aussi, parce que Little Nemo pourrait être un de ces enfants qui prend le bateau. Donc, ce bouquin-là n'est peut-être pas si éloigné de la sombritude des autres.
Vous êtes aussi donc metteur en scène de cinéma. Les thèmes abordés dans votre cinéma sont aussi quand même assez sombres. Comparant ça, L'Héritier avec Gourmet sur la guerre civile. Elle ne pleure pas, elle chante. Où on retrouve Erika Sainte, Marek Pinois, Vicky Krieps et Laurent Capelluto sur l'inceste. Et même vos documentaires, la prochaine fois que je viendrai au monde sur le Burundi. Est-ce qu'on pourrait vous voir lorgner aussi vers un cinéma façon Terry Gilliam ou Spielberg?
Non, pas du tout. Mon prochain film sera le dernier de la série sombre. C'est un film noir, mais un film noir dans le sens dans l'histoire du cinéma, hein, le cinéma noir américain. Et c'est un vrai film très très. C'est le plus sombre de tous mes films. Et je pense que ce sera le dernier parce qu'entre temps j'ai écrit un scénario de bande dessinée qui est un récit picaresque plein bouffon. Joyeux, plein de sexe, d'éclat de rire. Donc, peut-être c'est la fin de la série, on verra.
On parlait justement donc des retrouvailles avec les héros de BD à la fin. Donc, on se retrouve dans le service gériatrique. Vous avez 70 ans. La mort, vous y pensez?
Ben, j'y pense plus trop. J'y ai pensé
en tant que tout le papa. Temps. Ouais.
En fait, j'y ai pensé tout le temps. Elle m'accompagnait tout le temps. Et j'ai passé mes 45 premières années à être angoissé de la mort terriblement. Et ça a nourri mon hyperactivité. Chaque année, je sortais un bouquin et un film. Je pouvais pas m'arrêter parce qu'il fallait que je fasse tout ça avant de mourir. Et c'est vraiment pour ça. Hein. Parce que j'ai toujours même enfant, je me souviens que Je disais à ma maman, mais je pense que je vais mourir demain.
Wow.
Et tous les jours de ma vie jusqu'à 45 ans, j'ai pensé je vais mourir demain. Et ça m'angoissait terriblement. Et puis c'est passé quelque chose que je raconterai pas. Et maintenant, je pense toujours que je vais mourir demain. C'est une sorte d'évidence. Et on a beau me dire que maintenant j'ai 70 ans, que je suis toujours pas mort, ça ne change rien. Ça ne change rien. Demain, je peux quand même mourir. Mais ça m'angoisse plus du tout. Il s'est passé un truc qui fait que ça ne m'angoisse plus du tout. Et que je n'y pense que dernièrement avec la naissance de ma fille. Parce que du coup, même si je pète la forme et j'ai pas du tout, mes artères n'ont pas mon âge, voilà.
C'est bien dit ça.
C'est quand même un gros défi de se dire d'avoir un enfant dans le monde tel qu'il est, c'est pas qu'au défi, mais d'avoir un enfant à 70 ans, c'est un quelque chose d'assez inimaginable. Ça a complètement transformé ma vie.
Dans les personnages qu'on retrouve dans cette BD, il y a notamment donc le lit à jambes qui se trouve d'ailleurs dans l'exposition ici au
le lit quoi,
le lit à jambes.
Ah oui,
The Walking Bed de 108. Et puis il y a aussi Flip qui dans les épisodes originaux était parfois ami, parfois ennemi. Vous avez pu choisir l'ami soutien, non?
Ouais, Flip, c'est un personnage de Little Nemo qui est assez étrange. Hein. On n'arrive pas bien à le saisir. Il est très complice de Little Nemo. C'est comme s'il devinait tout ce que cet enfant vivait. Et il est complice de ses aventures, mais aussi de ses angoisses, de ses cauchemars, tout ça. Et en même temps, oui, c'est pas vraiment un ami. C'est quelqu'un d'assez dérangeant. Mais ce personnage, moi, il me plaisait beaucoup parce que justement, il est pas très clair. Il est difficilement cernable. Et du coup, pour se l'approprier, c'est plus facile, évidemment, vu que c'est un personnage qui, on sait pas très bien qui il est, finalement. J'ai eu un énorme plaisir à me l'approprier en me disant, tiens, ça pourrait être quand même le personnage qui va chercher Nemo sur Terre, parce que donc en fait l'histoire ne commence pas avec Little Nemo sur Terre. L'histoire commence à Slumberland, le pays des rêves, qui s'écroule complètement, qui est complètement décati, les couleurs sont devenues grises, l'architecture s'écroule, Morfeo, le roi de Slumberland déprime complètement. et il a maigri, il n'en peut plus, il est désespéré. Et tout Slumberland est en train de mourir parce que les gens sur Terre ne rêvent plus. Et c'est un peu comme si plus personne croit en Dieu, ben les dieux meurent. Et donc Slumberland est vraiment en danger. Et Morfeo envoie Flip en mission sur Terre pour essayer de retrouver Little Nemo, pour lui dire, bon, fais quelque chose, réveille-toi, il faut que les gens rêvent de nouveau, sinon nous... on va disparaître.
Philippe, un grand merci. Donc, un rappel, Le Réveil de Little Nemo, publié par le Musée de la Bande Dessinée Bruxelles. Merci.
Merci à toi.